bienvenue dans Altermédia en escapade, l'émission d'info indépendante issue du partenariat entre votre radio préférée et le bimédia régional et citoyen Altermédia qui renouvelle et diversifie vos sources d'informations. On ne le dira jamais assez, dans un paysage médiatique où la concentration et la droitisation s'intensifient, les radios locales comme Escapade et les médias indépendants conservent une place unique, essentielle et complémentaire. La crise politique que nous traversons appelle un réveil citoyen qui suppose davantage de pluralisme dans nos sources d'information. La force des médias indépendants et des radios locales, c'est la confiance que vous nous accordez. Et visiblement, ça ne plaît pas à tout le monde. Alors merci à vous d'être là. Au sommaire de cette émission, on revient sur quelques points d'actualité qui ont retenu notre attention ces dernières semaines. Une actu locale, régionale, mais aussi nationale, méditerranéenne et européenne qui nous concerne en région. Nous évoquerons la situation critique des radios locales et du secteur de l'économie sociale et solidaire. Dans sa version actuelle, le projet de loi de finances 2026 prévoit des coupes sombres et mortifères qui ne relèvent pas seulement d'orientation budgétaire, mais bien de décisions politiques. Car supprimer 44% du budget des radios locales quand le budget global de la culture est en baisse de 7%, c'est une décision politique. Les acteurs se mobilisent pour défendre leur travail quotidien. On verra qu'il ne s'agit pas d'action corporatiste, mais bien de la défense d'un modèle de société attaqué de toutes parts. Attaqué comme peut l'être notre système démocratique qui subit chaque jour les effets des coups de butoir du président américain Donald Trump et de ses alliés dans le monde, adeptes de la nouvelle trinité, religion, argent et pétrole. Dans la seconde partie de l'émission, nous irons à la rencontre de la metteuse en scène libanaise Christelle Kort, invitée à la Biennale des Arts de la Seine en Méditerranée, qui se tient du 6 au 22 novembre dans la région. Et on enchaîne avec The Red Coats, On Love.
All day.
De l'amour un peu trash, mais génial, avec les londoniennes de The Redcoats, groupe actif entre 1977 et 1984, fut la référence pour le mouvement rock féministe, notamment celui des Riot Grrrl, qui émerge au début des années 90 aux États-Unis pour dénoncer les problèmes liés à la violence domestique, au viol et au racisme. Pourquoi je vous parle de tout ça? À cause du Monde et de l'actu qu'on suit de près sur le site d'Info Altermidi en vous informant au jour le jour pour faire face à la montée du racisme et du sexisme. Pour prendre aussi le contre-pied de la croisade idéologique de Donald Trump pour déwokiser la société américaine. En France aussi, les défenseurs du vieil Occident et de son ordre moral usent de tous les stratagèmes pour discréditer cette convergence des luttes. Ces dernières semaines, nous avons publié plusieurs articles sur ces sujets que vous pouvez lire en accès libre sur altermidi.org, parmi lesquels « Woke, l'esprit éveillé », les suites du procès pour cyberharcèlement visant l'artiste noire Rebecca Chaillon. On parle des mauvaises nouvelles, comme le vote le 30 octobre de la majorité des députés lettons pour sortir de la Convention du Conseil de l'Europe d'Istanbul, qui concerne la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et les violences domestiques. C'est une première au sein de l'Union européenne. On parle aussi des bonnes nouvelles, comme les législatives ratifiées par le Sénat le 29 octobre, qui intègrent en France la notion de non-consentement dans la définition du viol et des agressions sexuelles. Aucune peur, aucun silence, aucune vulnérabilité, aucune sidération ne saurait être confondue avec un oui, a fait savoir la co-rapporteuse du texte, Véronique Rioton. Reste à assurer la mise en œuvre de cette loi. On attend pour cela le décret d'application de la loi. Pour mémoire, la loi de 2010 sur les violences psychologiques comme violences conjugales ne s'en est pas dotée. Résultat, la loi est difficilement applicable puisqu'elle est orpheline de son outil principal. Dans les studios des radios locales, le matin ne commence pas avec les gros titres des agences, mais avec les voix des habitants, des bénévoles, des jeunes, des artistes, des élus de terrain, des citoyens engagés qui font entendre ce que les grands médias oublient souvent. La vie quotidienne des territoires, leurs initiatives, leurs combats, leurs espoirs. Ces voix aujourd'hui sont en danger. Dans la première version du projet de loi de finances 2026, le Fonds de soutien à l'expression radiophonique locale, le FSRER, véritable bouée d'oxygène pour ces médias d'intérêt général, se voit amputé de près de la moitié de son budget. Derrière cette décision comptable se cache une réalité brutale, des emplois menacés, des fréquences réduites au silence, des quartiers et des villages privés d'un espace d'expression essentiel. Pour Altermidi, acteur de l'économie sociale et solidaire, ce combat dépasse la seule question budgétaire. Il s'agit d'un choix de société. Soutenir les radios locales, c'est soutenir une information libre, accessible et participative. C'est refuser que la parole publique soit confisquée par quelques puissants groupes privés ou centralisée dans les grandes métropoles. En travaillant en synergie avec les radios associatives, Altermidi s'inscrit dans une démarche collective, résister ensemble, inventer de nouvelles solidarités médiatiques, défendre la liberté d'informer comme un bien commun. Car à travers chaque émission, chaque reportage, chaque micro tendu, se joue l'enjeu vital du droit de chacun à être entendu et à participer à la vie démocratique. Radio. Oui, oui, On My Radio. Mais les radios locales sont en danger. Le projet de loi en 2026 de finances envisage une baisse de 16 millions d'euros du FSR, le Fonds de soutien à l'expression radiophonique, soit 44% du budget. Pour mémoire, le projet de loi de finances pour 2025 prévoyait une réduction de près de 29% de ce budget, qui n'a pas été validé grâce à une mobilisation solidaire de grande ampleur. Mais comme l'on sait, il ne faut jamais rien lâcher. Aujourd'hui, la Confédération nationale des radios associatives et le Syndicat national des radios libres alertent sur la situation d'une gravité sans précédent à laquelle fait face le secteur radiophonique associatif. Cette baisse de 16 millions menace de disparition plus de la moitié des radios associatives et 80% des emplois du secteur. 2400 postes directs et indirects seraient menacés. À noter que cette décision intervient alors que les secteurs associatifs et culturels, dans leur ensemble, sont déjà étranglés par la baisse des soutiens publics. Cette décision, dans la trajectoire budgétaire imposée par le Premier ministre et le gouvernement, n'est pas une simple mesure d'économie. Elle porte un coup fatal à un pilier essentiel de la démocratie, de la culture et de la cohésion sociale. Elle accentuerait la disparition progressive des acteurs de terrain qui contribuent chaque jour à la cohésion sociale, à la vitalité culturelle et à la participation citoyenne. On rappelle que le Rassemblement national fait du découpage de la vente de l'audiovisuel public l'une de ses priorités. Le parti d'extrême droite accuse régulièrement les médias publics de porter des idées de gauche. Marine Le Pen avait, par exemple, il y a quelques années, taxé France Inter de radio bolchévique. Dans cette lignée idéologique, il n'est pas impossible qu'elle considère les radios locales comme des suppôts de la Corée du Nord. Donc la réplique doit être massive. Et là, on a Siam aujourd'hui qui fait la technique, qui est la directrice de Radio Escapade. Et elle est aussi coprésidente du syndicat national des radios associatives. Alors Siam, puisque tu es de l'autre côté de la vitre, là, tu peux nous dire où on en est à peu près au niveau de la mobilisation?
Tu en profites effectivement que je fasse ta technique pour m'interviewer. C'est pas mal, Jean-Marie. Bon, déjà d'abord, merci un peu quand même pour ce sujet-là dans Alter Midi en escapade aujourd'hui. Écoute, la mobilisation, effectivement, depuis le 14 octobre, lorsqu'on a appris justement les nouveaux montants du PLF 2026, hein, donc, qui indique moins 44% pour le fonds de soutien à l'expression radiophonique. Donc, grosse mobilisation, ce qui fait qu'on a eu plusieurs députés qui ont déposé des amendements. Donc, comme tu le disais, hein, je suis coprésidente de la Confédération nationale des radios associatives. On travaille main dans la main avec le SNRL, qui est l'autre syndicat. Et on a fait une demande de porter un amendement à 18 millions, ce qui ferait que l'enveloppe du fonds de soutien reviendrait à 38 millions, c'est-à-dire à la hauteur de 2024, puisque ce qu'il faut dire, c'est qu'on est quand même plus de 770 radios associatives en France. Donc, il y en a partout, hein, sur le moindre petit territoire rural, en montagne, en ville. Et que ça nous paraissait quand même important de revenir à des montants corrects. Alors, 6 amendements déposés le jeudi 30 octobre. Ça a été adopté en commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale jeudi soir très très tard, à 23h30.
Ce qui est plutôt une bonne nouvelle, du coup.
Voilà, qui est une toute petite première victoire, puisque maintenant, puisque ça a été adopté, donc c'est remis en débat, et ça doit l'être justement à l'Assemblée nationale le 7 novembre. Et suite à ça, voilà, il y aura deux hypothèses. C'est soit c'est adopté le 7 novembre et donc après ça repart en débat et ça s'est voté dans tout le PLF 2026, ou soit ça ne l'est pas adopté et là il va falloir encore repartir avec la sollicitation des députés et parlementaires. Donc voilà, donc on a toujours chaque radio associative met à disposition des bénévoles, des auditeurs, des exemples de courriers. Donc voilà, donc nous on a eu déjà des auditeurs qui nous ont écrit pour avoir l'exemple. Donc voilà, Radio Escapade, on reste mobilisé, on reste dispo, parce que c'est vrai qu'en tous les cas, en ce qui nous concerne, nous, c'est 4 salariés, et ça sera plus du tout possible, et c'est plus d'une quarantaine de bénévoles qui font vivre l'antenne quand même.
Donc il faut se mobiliser, et vous pouvez aussi écrire aux membres de la commission des finances en vous inspirant du kit à télécharger sur le site du Syndicat national des radios libres. Votre courrier sont à envoyer à l'adresse. Alors, il faut que je la retrouve, cette adresse, où est-ce qu'elle est passée, où vous êtes tout. Membre de la Commission des Finances Nationales, 126 rue de l'Université, 75 355 Paris, SP 07. Junior Walker and the All-Star Shotgun. On ouvre notre rubrique ESS et on est à nouveau obligé de reparler de ce satané projet de loi de finances pour 2026. Car comme elle est présente dans tous les secteurs de l'économie, l'ESS est à peu près dans tous les programmes budgétaires de l'État. Plusieurs baisses inscrites dans le projet de loi de finances pour 2026, présenté par le gouvernement le 14 octobre, affecteraient directement les structures de l'ESS si elles étaient adoptées. Rien n'est moins sûr, hein, puisqu'on sait que le gouvernement pourrait démissionner d'un jour à l'autre. Cependant, le budget attribué au dispositif visant à développer ce mode d'entreprendre serait réduit à 12,3 millions d'euros selon ESS France. En 2025, les parlementaires avaient voté une enveloppe de 26,7 millions d'euros. Cela constituerait donc une baisse de 54%. Dans le détail, les crédits concerneraient la jeunesse et la vie associative. Ils passent de 848 millions d'euros à 626 millions d'euros, soit une baisse de 26%. Le 11 octobre, des milliers d'associations ont manifesté contre la dégradation de leurs ressources et la disparition de leurs activités. On le comprend d'autant plus qu'il ne s'agit pas d'activités de loisirs et détente, mais sociales, c'est-à-dire de fonctions dont l'État s'est déchargé en les confiant au monde associatif. Les budgets attribués à l'insertion par l'activité économique, IAE, qui rassemble des structures embauchant des personnes très éloignées de l'emploi, baissent également dans le projet présenté par le gouvernement. le montant des subventions versées pour l'embauche de ces personnes, les aides au poste diminuent de 13% et celui destiné à leur formation de 30%, ce qui pourrait mettre en péril 50 000 emplois selon ESS France. Les structures de l'IAE sont des employeurs soumis aux cotisations et impôts qui contribuent ainsi aux recettes de l'État. 1 euro d'aide au poste octroyé rapporte à minima 1,5 euro de recettes pour les comptes publics, argumentent 10 réseaux d'IAE, dont Emmaüs France, la Fédération des entreprises d'insertion et les Restos du Cœur. La politique de retour à l'emploi serait durement amputée, pointe-t-il. Le budget global de l'IAE serait, selon eux, coupé de 200 millions d'euros par rapport à 2024. Et les restrictions ne s'arrêtent pas là. Par exemple, l'effort demandé aux collectivités territoriales aura un impact indirect sur les structures de l'ESS, puisqu'elles s'appuient beaucoup sur elles pour déployer les politiques publiques. Pour David Gluzot, le président de l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire, cette première copie de projet de budget n'est pas à la hauteur. L'ESS ne demande pas des privilèges, mais la reconnaissance de son rôle vital dans notre économie, avance-t-il, mentionnant les 2,7 millions de salariés travaillant dans les structures de l'ESS.
Brother of five, doing whatever I had to do to survive. I'm not saying what I did was all right. Trying to break out of the ghetto was a day-to-day fight. Being down so long, getting up didn't cross my mind. But I knew there was a better way of life, and I was just trying to find. You don't know what you do till you're put under pressure. Across 110th Street is a hell of a tester. Across 110th Street, pimps trying to catch a woman that's weak. Across 110th Street, pushers won't let the junkie go free. Across 110th Street, woman trying to catch a trick on the street. Talk to y'all about right now. Hey, brother, there's a better way out. Shorting that coat, shooting that dope man you're copping out. Take my advice, it's either live or die. You got to be strong if you want to survive. The family on the upper side of town will catch hell without a ghetto.
Le mois de l'ESS qui débute nous donne l'occasion d'évoquer les actions porteuses de solidarité au niveau local. Le mois de l'ESS est fait pour ça. C'est le mois des acteurs qui font l'économie sociale et solidaire pour témoigner de ce qu'elle peut apporter à notre société en pleine transition. Et c'est le mois de tous les citoyens et citoyennes qui souhaitent découvrir cette économie. Dans le Gard, l'ESS représente près de 12% de l'emploi salarié. Elle est particulièrement engagée dans l'innovation et le développement durable, social, managérial et environnemental, souvent au service des personnes les plus fragiles et les plus en difficulté. Vos enfants font du sport avec une association, vous cotisez pour une mutuelle de santé, vous avez l'habitude de passer à la recyclerie de votre quartier, à la coopérative du village dans l'apéritif, avant l'apéritif entre amis. Sans le savoir, peut-être vous participez déjà à l'économie sociale et solidaire. Dans le Gard, le conseil départemental est fortement engagé dans l'ESS. Dans le cadre du mois de l'ESS, il soutient plusieurs événements. On vous en donne quelques-uns. Le 10 octobre de 14h30 à 17h30, à la filature du Mazel de Notre-Dame de la Rouvière, se tient un atelier ludique numérique proposé par Demain dès l'Aube. Cet atelier vous propose de découvrir l'impact environnemental des usages du numérique et identifier collectivement des pratiques plus responsables. Les inscriptions sont obligatoires sur lea@demaindeslaube.org. Le 13 novembre, les lève-tôt pourront se faire un petit déj banque et ESS. Rendez-vous à 8h30 à l'espace d'Hydro à Nîmes pour y voir plus clair et échanger avec les banques. Un panorama des besoins et des services bancaires. C'est gratuit, mais on doit s'inscrire sur le site du conseil départemental du Gard, à la rubrique ESS. Cet événement est organisé par le dispositif local d'accompagnement de l'ESS, et en collaboration avec France Active, RDI, Occitanie et le MIES 30. À noter également le 6 décembre, on déborde du mois de novembre, mais ça ne change rien, une conférence rencontre débat de 14h à 17h à la Maison familiale rurale du Pont du Gard pour découvrir les dynamiques et initiatives ESS existant dans votre département. Rencontrer des acteurs et actrices qui font vivre le réseau de l'ESS gardois, échanger sur les communs, vecteurs de coopération territoriale. Il est 12h30 et vous écoutez Radio Escapade et on passe à notre rubrique culture. Que devient la création au cœur de la tempête libanaise? Comment la scène artistique invente sa survie? De Beyrouth à la scène européenne, la metteuse en scène Christelle Cord explore le rôle vital du théâtre en temps de guerre. Et nous sommes allés à sa rencontre. Christelle Cord, bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes metteuse en scène libanaise. J'aurais envie de commencer par une question du départ, c'est-à-dire vos premiers rapports avec le théâtre. Ça s'est passé comment et c'était quand?
Ça s'est passé à l'école. C'est ça, c'est des moments où on voit des pièces quand on est petit, puis ça marque, et puis on commence à avancer, à aimer ça. Ça passe aussi par des profs qui font aimer la matière, des profs soit de français, soit d'arabe, des profs de littérature en tout cas. Et donc, et puis c'est comme ça.
Et c'était à Beyrouth?
Oui, moi j'habite toujours à Beyrouth, et je suis née à Beyrouth, et donc voilà, oui.
Et donc vous avez poursuivi, du coup, depuis ces premiers pas. Qu'est-ce qui est resté? Et qu'est-ce qui a changé?
Décider de faire du théâtre son métier, ça c'est une décision. Ou bien décider de faire des études de théâtre, c'est une décision. Mais puis après, continuer à faire du théâtre, c'est autre chose. C'est comme un combat de tous les jours à en faire un métier. Donc... je dirais que c'est vraiment un combat quotidien pour pouvoir, que ça soit un métier à part entière. Je parle dans mon contexte à moi. Et que je puisse continuer à exercer. Donc voilà.
Quand vous dites que c'est un combat à part entière dans mon contexte à moi, c'est-à-dire le contexte libanais, vous pensez que c'est spécifique?
Oui, c'est pas uniquement spécifique. Je sais que la culture aussi ici est en train de souffrir. Je sais qu'on s'est beaucoup battu dans les années 60 et 70 pour que la France soit telle qu'elle est aujourd'hui, où le service public soit comme il est aujourd'hui et le secteur de la culture soit comme il est. Et je sais qu'aujourd'hui, les camarades qui habitent en France sont en train de perdre de ça. Et c'est très, très dangereux, je trouve, parce que ce qui peut être plus dangereux, c'est que... ce que nous vivons au Liban, de par la non-existence, quasi non-existence, et des services publics et d'un théâtre public, et vraiment c'est pas uniquement désolant, mais c'est quelque chose qui fait que on se sent vraiment démuni, et c'est le métier qui perd, et c'est la pratique qui perd, parce que On ne peut pas créer du théâtre seul. Voilà. Et c'est dans mon contexte, je voulais bien dire ça, parce que oui, des fois, on dit que voilà, ici en France, c'est une société privilégiée, etc. Mais moi, je ne le pense pas. Je pense que c'est pas le truc, c'est que... comment dire, que c'est vrai, des fois, on oublie. C'est un privilège dans le sens où, en France, des fois, on oublie qu'il y a eu toutes ces luttes pour que ça a l'air comme ça. Et quand on est en train de commencer à couper, comme ça devenait un superflu. Voilà, j'étais claire.
Oui.
Ok.
Alors, je crois que vous vous êtes formée en partie en Europe et vous avez choisi de retourner au Liban, alors que sans doute l'exil était possible. Pour quelle raison vous avez choisi de retourner au Liban ?
Parce que c'était nécessaire, en fait, que je retourne. C'était très nécessaire. Tout prend un autre sens quand je suis au Liban, en fait. Et je me sens... C'est chez moi. Donc, oui, je me suis formée au Liban à l'université libanaise, qui est une université pratique. Et donc, chez vous, c'est les écoles. Il y a des exemples d'écoles comme ça. Il y en a une à Aix, il y en a une ici même. C'est une école pratique, mais ça s'appelle l'université. C'est un modèle qui a été copié d'ici. Et donc, du coup, j'ai fait ça. Et après, je me suis formée à l'école de mouvement de pédagogie Lecoq à Bruxelles. Donc, j'ai fait ça pendant 2 ans. Mais c'était impossible que je reste parce que ça n'avait pas de sens. Même si maintenant, je travaille beaucoup plus à l'étranger que je ne travaille chez moi. Mais... Et puis même aujourd'hui, moi aujourd'hui, je peux partir si je veux.
Mmh, mmh.
Mais je ne veux pas. Beyrouth, c'est la ville qui me fait subsister, en fait. C'est pour ça, c'est impossible de vivre ailleurs, en tout cas aujourd'hui pour moi, malgré tout.
Vous dites c'est la ville qui me fait subsister, ça fait référence à quoi, cette subsistance ?
Parce que c'est là où j'ai grandi, ça fait référence au lieu que je connais, ça fait référence aux personnes, ça fait référence aussi à l'inconscient collectif, je crois, à ce que je sais et que les gens qui m'entourent savent et que d'autres ailleurs ne savent pas. Moi, c'est impossible pour moi de, surtout avec ce qui se passe aujourd'hui en Palestine, c'est impossible pour moi de d'être dans une société où il y a des gens qui continuent. Au Liban, en tout cas, on continue. C'est pas la vie ne s'arrête pas pendant la guerre, c'est pas ça. Mais c'est être avec des gens avec qui on a le même engagement.
Donc le Liban, qui est un pays où toutes les structures se sont écroulées les unes après les autres, que ça soit politique, économique. Qu'est-ce que ça signifie être artiste là-bas ?
Ça signifie plus grand-chose, en fait. Pour de vrai. Ça signifie plus grand-chose, parce que ça signifie quelque chose pour nous, artistes, d'être artistes, de continuer et d'essayer de travailler. Mais ça ne signifie plus grand-chose, vraiment. Parce qu'on n'est pas entendu, et je crois partout dans le monde, les artistes sont très peu entendus, qu'ils n'ont pas... Nous croyons avoir un pouvoir, mais en fait, nous ne l'avons pas. C'est un pays après la crise économique, et même avant, cette frénésie pour la consommation énorme. Donc, je ne sais pas, qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui, même aussi d'être médecin au Liban, je ne sais pas. Infirmière, je ne sais pas non plus. Et cordonnier, tout ça. Et les métiers, et que ce soit de l'artisanat ou les métiers... où on se forme pendant longtemps. Je ne sais pas ce que ça veut dire, parce qu'il est en train d'exporter tout. C'est aussi comme un acte de résistance de rester au Liban, parce que c'est un pays qui a exporté toutes ces richesses humaines, en fait. Et, je ne sais pas ce que ça veut dire aujourd'hui, être artiste. Mais moi, je ne perds pas l'espoir, mais c'est vraiment très, très, très difficile d'être quoi que ce soit aujourd'hui. Peut-être être oligarque, ça signifie quelque chose.
Vous êtes bien calé sur Radio Escapade et on retrouve la metteuse en scène libanaise Christelle Cord qui fait de son art un moyen de résistance face à l'effondrement. Alors vous travaillez pour qui et vous travaillez pourquoi ?
D'abord, quand j'écris, je travaille tout d'abord au public auquel je m'adresse. C'est le public qui va au théâtre, vraiment. Et ça, je n'ai pas honte de le dire. Qui va au théâtre. Donc moi, j'écris pour le public qui vient voir mon spectacle, tout d'abord avec qui je partage la même langue. Donc les gens qui viennent voir le... Vraiment. Et puisque je joue maintenant plus à l'étranger, donc ça passe tout le temps par le surtitrage, et ça, c'est quelque chose... Mais avec qui je partage aussi le même imaginaire aussi. Ça, c'est... Et après, j'espère que... en jouant, qu'il y aura des gens qui ne vont pas au théâtre, qui viennent voir mes spectacles et qui reviendront voir d'autres spectacles, pas seulement à moi, mais à d'autres. Donc, et aussi, je travaille pour moi aussi, tout d'abord. Et je travaille aussi pour l'équipe qui travaille avec moi, parce que c'est notre manière de vivre aussi. Parce que je peux, si je oui.
On va parler un petit peu de vos spectacles. Vous venez de mettre en scène une pièce étudiante, Mère Courage, de Bertolt Brecht. Pourquoi avoir choisi ce texte ?
Parce que j'aime beaucoup cette pièce. Et parce que je l'aime beaucoup. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je voulais voir comme lui, c'est-à-dire... qu'est-ce que la guerre, elle fait à ces gens et d'essayer de comprendre. Moi, je sais et je les ai vus et je les vois dans mon quotidien. Les gens comme Mère Courage et comme ce que lui appelle les petites gens. Je sais. Moi, j'ai grandi dans ça. Mais je voulais essayer ça avec des jeunes d'ici pour qui la guerre est un concept et très, très abstrait. Donc, voilà.
Et on dit dans le texte que la guerre est infinie parce que, quelque part, il y a des gens qui en profitent et qui l'entretiennent.
Oui.
Ça fait référence aussi un peu à ce qui s'est passé au Liban.
Et partout dans le monde, pas qu'au Liban. On est actuellement maintenant, à l'heure qu'on parle, il y a un génocide qui se passe sur la rive de la Méditerranée. Et... Qui peut l'arrêter ? Personne. Il y a tellement de gens qui en profitent, pas uniquement les petites gens. Nous, on est aujourd'hui, si on parle de la France qui est le premier, l'industrie des armes, ça ramène la première chose qui ramène, qui va. Si on parle de la Suède, soi-disant pays, ça fait 400 ans qu'il n'y a pas eu de guerre. La dernière guerre, c'était la guerre de 30 ans. Par rapport à sa population, c'est le deuxième exportateur d'armes. Qui va l'arrêter ? C'est avec des armes comme ça. Nous, on était bien contents. Hein. Après ce qui s'est passé le 4 août chez nous, cette explosion de nitrate d'ammonium, les Libanais étaient contents. Emmanuel Macron est venu les consoler deux jours plus tard à faire son Jésus. Il est descendu dans la foule. C'était le 6 août. Le 8 août, les Libanais manifestent dans les rues pour ouvrir l'enquête. Eh ben, on était bombardés avec des bombes lacrymogènes françaises. Donc, c'est un pays qui exporte des armes. Donc oui, personne ne peut arrêter la guerre. Personne ne veut arrêter la guerre. Et personne aujourd'hui ne veut arrêter ce qui se passe en Palestine, et ce qui se passe en Syrie, qui continue à se passer, ce qui se passe au Liban, ce qui s'est passé en Irak. C'est-à-dire, c'est impossible. Moi, je parle à mon échelle du Moyen-Orient. D'autres personnes en Centrafrique ou en Afrique de l'Est, ils vont aussi pouvoir parler d'autres choses. D'autres personnes en Amérique du Sud, ils peuvent parler différemment. Oui, et du coup, c'était important. Ça a fait beaucoup de sens de venir tout le mois de juin travailler avec... Pardon, je suis très fatiguée, c'est pour ça que j'ai des larmes. Mais travailler avec des jeunes ici, ça faisait beaucoup, beaucoup de sens. C'est plus possible qu'il y ait, zéro empathie envers tout ce qui... Mais c'est pas possible. Et non, rien ne peut arrêter. Rien. Parce que si elle va s'arrêter chez nous, elle va commencer ailleurs.
Votre prochaine pièce, qui sera donnée dans le cadre de la Biennale des Arts Méditerranéens, ici à Montpellier, C'est aussi un sujet qui vous tient à cœur. Vous pouvez nous en parler un petit peu ?
Et oui, c'est sur le massacre qui a eu lieu en 1976 à Beyrouth Est, dans un camp palestinien qui s'appelle Tal Zatar. C'est un siège, le siège Tal Zatar était pendant 3 mois. Et après, il y a eu un grand massacre perpétré par les milices d'extrême droite chrétienne, les phalangistes, en collaboration avec l'armée syrienne et une fraction de l'armée libanaise. Et du coup, c'est à partir de l'histoire vraie d'une infirmière suédoise qui était venue au Liban, qui est dans les camps en volontaire, parce qu'à l'époque, le Parti communiste suédois, il envoyait des volontaires dans les camps, des volontaires du corps médical. Et donc, elle est venue au Liban en 1974 et elle est restée, puisqu'elle est tombée amoureuse d'un Palestinien qui n'était pas combattant. Et pendant le siège du camp, elle va perdre son mari, le bébé qu'elle portait et son bras. Et moi, j'ai trouvé cette archive d'une femme en 1976 allongée sur un lit d'hôpital. Et le nom de l'archive, c'était l'infirmière suédoise Tal Zatar, une archive de 1 minute 20. C'est resté avec moi et puis en 2022, je l'ai retrouvée. Elle s'appelle Eva Hamad. Et donc c'est à partir de son histoire à elle que j'essaye de retracer ce qui s'est passé en 76.
C'est quelque chose qu'on retrouve dans vos créations, c'est à la fois la dimension intime, personnelle, et puis la dimension collective que vous mêlez.
Mmh. Oui. En tout cas, ce massacre, ni le côté palestinien en parle beaucoup, ni le côté libanais. Et maintenant, c'est un terrain vague. Quand c'est juste un terrain vague, il n'y a aucun signe qui dit qu'il y avait ici des gens qui habitaient. Mais oui, c'est juste pour essayer de comprendre. C'est pour ça que j'ai dit au début que je travaille tout d'abord pour moi. Et j'écris tout d'abord pour moi.
Ça, c'était en 76. Je crois que ça a fait 2000 victimes. Il y a des gens qui sont morts de faim aussi. Il n'y avait pas d'information. On retrouve quelque part la configuration de ce qui se passe à Gaza actuellement.
En fait, pardon, je vais le dire, mais le bloc qu'on appelait le bloc de l'Ouest à l'époque, donc France, Allemagne, etc., était pro-phalangiste à l'époque et ils étaient pro-milices chrétiennes parce qu'ils combattaient les gens du bloc de l'Est, si on veut schématiser comme ça. Et c'est grâce à un journaliste que j'ai aussi rencontré qui a maintenant 80 ans, qui s'appelle Anders Hasselbaum, qui a appris qu'il y avait une infirmière suédoise bloquée dans le siège et blessée, qui est venue au Liban et qui a commencé à investiguer et à dire ce qui se passe, c'est pas bon. Et aucun journal ne l'avait envoyé. Lui, après, il a écrit dans un journal. C'était même pas un article commandé. Et c'est là où tu vas pouvoir retrouver, c'est vraiment, je les utilise en tout cas, c'est hallucinant, des journalistes français qui arrivent. Je les utilise dans mon spectacle, c'est hallucinant, hallucinant. J'ai même une archive où il y a j'ai oublié son nom, un reporter de guerre de TF1 qui arrive, qui dit que la pellicule est encore en train d'être développée. Et il commence à dire ce qu'il a vu. Et en fait, il a fallu d'un seul homme qu'il s'intéresse, qui est Anders Hasselbaum, un Suédois, qui dise il y a un truc qui est faux, pour que les médias s'y intéresse. Aujourd'hui, pourquoi il n'y a aucun journaliste?
Au Liban, ce massacre a eu lieu en 76, un an avant, c'est le début de la guerre civile. Ce rapport entre les Palestiniens et notamment les phalangistes, les chrétiens, participe beaucoup à la question de la guerre civile. Aujourd'hui, qu'en est-il? Comment est-ce que c'est toujours, les communautés sont toujours aussi réparties et comment ils vivent la question palestinienne?
Je crois que tout le monde est au Liban, tout le monde est très 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 touché, et que ce soit la communauté chiite ou la communauté sunnite ou la communauté chrétienne maronite ou grec-orthodoxe, tout le monde est très touché, parce que nous on sait ce que c'est d'être bombardé par Israël, on sait très bien ce que c'est. Et ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, bien sûr, en ce qui concerne le Hezbollah, parce qu'il faut pas non plus aplatir les choses, parce qu'il y a plusieurs couches. En ce qui concerne le Hezbollah, tout le monde n'était pas d'accord qu'il entre dans cette guerre. Cette guerre qui a d'ailleurs rien fait, qui a rien fait à Gaza, ça n'a rien, ça n'a pas amoindri les dégâts de Gaza, au contraire, eux, ils étaient affaiblis et nous, on était détruits après. Donc, ils sont rentrés dans cette guerre pour des questions qui les concernent, comme leur courage, qui eux aussi, leur, s'il n'y a pas guerre, le Hezbollah n'existe pas. Donc, mm-hmm. c'était un truc de subsister. Donc oui, la question maintenant est aujourd'hui, là où on est en crise économique, je crois que le Liban, il est, et je ne crois pas qu'il était comme ça en 75 non plus, je crois que c'est la même configuration, ce n'est pas quelque chose de communautaire, je crois que c'est quelque chose de classe, de riche, d'extrêmement riche et de gens très très pauvres. Donc voilà, ouais, c'est, ça ressemble à la configuration de 75. Extrême richesse, pauvreté, et puis... Mais tout le monde est très affecté, et...
Quelles que soient les obédiences religieuses, vous voulez dire, ça compte, c'est secondaire, quoi.
Non, ouais. Aujourd'hui, c'est très secondaire, et on en est ailleurs dans la...
Pour conclure, peut-être, essayer de se projeter, bien que c'est très difficile, mais comment... parce que là, il y a quand même, surtout le Proche-Orient, les choses bougent à tous les endroits. Comment vous voyez... l'avenir, je dirais.
Le problème, c'est que c'est une poudrière. C'est une poudrière et je ne sais pas ce qui va se passer. Moi, tout ce que je ne sais pas ce qui va se passer, que ce soit en Irak, en Syrie, maintenant, c'est vraiment très... Il y a plein de miliciens armés. Assad a fait en sorte pendant 58 ans de les mettre à plat, de mettre à plat tout. Il n'y a plus ni de société civile, ni rien du tout. De les aplatir, la Palestine maintenant sous occupation, ce qui se passe, je sais pas, je peux pas imaginer, on va être acheté probablement, et je sais pas, en tout cas de ce qui en est du Liban, moi je reste vraiment aujourd'hui avec notre premier ministre qui est un juriste, qui est un homme de gauche aussi à la base, et tout le cabinet qu'il a créé. Ça va être pour un an et demi, et vraiment, j'espère que l'enquête du port, elle va continuer à travailler. L'enquête de ce qu'on est de l'argent des dépositaires, juste qu'on puisse se relever juste un peu, que les gens qui habitent au Liban juste puissent respirer. Et après, on verra.
Sur l'autre partie de la question, c'est-à-dire quand on a vécu ça en tant que... individu, membre d'un pays, qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on peut porter pour l'avenir?
Moi, je ne sais pas penser à l'avenir, mais en tout cas, si je réfléchis sur toute ma vie jusqu'à maintenant, je crois, nous n'avons pu rien faire pour améliorer la situation de notre société comme nous la rêvions. Mais je crois que les seules choses que je peux garder, c'est mes réussites personnelles. Et ça peut être des petites choses de la vie. Ça peut être comme, pardon, ça va paraître très cliché, mais comme planter quelque chose qui pousse et qu'on est content, comme faire une pièce de théâtre. Mais sinon, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de défaites. Je ne sais pas comment penser à l'avenir... impossible ici dans la pièce de Mel Courage, pour moi c'était impossible de laisser Catherine battre le tambour seule. C'est pas possible aujourd'hui pour moi. C'est pas possible. J'ai besoin d'avoir une espérance par rapport à un geste désespéré. C'est ce que j'ai essayé toujours de faire jusqu'à maintenant, là où je vis. Et je sais pas qu'est-ce qui va advenir, mais oui.
Merci beaucoup.
Merci.
Oui, ces mots de Christel Cord sont sincères et puissants. Sa dernière création s'intitule « Silence, ça tourne ». Elle revient avec cette pièce sur le siège du camp de réfugiés palestiniens de Tel al-Zaatar en 1976. à découvrir jeudi 6 novembre au Théâtre universitaire de l'Université Paul Valéry, La Vignette, dans le cadre de la Biennale des Arts de la Seine en Méditerranée qui se tient dans la région du 6 au 11 novembre. Excusez-moi, allez voir le programme qui vaut vraiment le détour. S'achève notre escapade du jour. Merci à Siam, à la technique et Isa qui l'accompagne. On se retrouve le mois prochain sur les ondes de Radio Escapade. D'ici là, vous pouvez suivre notre actu quotidienne interrégionale et méditerranéenne en accès libre sur intermidi.org. Vous pouvez même vous inscrire à notre newsletter pour recevoir les infos toutes les semaines. Et à bientôt, donc, portez-vous bien et faites-en profiter les autres.